MDM, plus proche de chez vous.
Législative 2022, première circonscription des Landes, premier tour le 12 juin prochain. Les candidats, les enjeux, c'est sur Radio MDM.
Élection législative depuis le 31 mai dernier, Radio MDM vous propose de découvrir chacun des 11 candidats dans la première circonscription des Landes, pour resituer hein, pour les auditeurs, électeurs et électrices, qui inclut donc les cantons de Mont-de-Marsan Nord et Sud, de Roquefort, Sabre, La Britte, hors du champ herzien de Radio MDM également, les secteurs de Mimizan, de Parentis-en-Born, de Pissos et de Sors. Parmi donc ces 11 prétendants, le représentant de Lutte Ouvrière, Jean-Claude Bon, 59 ans, dont 40 ans passés comme ouvrier dans l'aéronautique en région parisienne, où il fut candidat pour divers scrutins, présent également candidat dans les Landes pour les élections européennes. Ce déçu du mitterrandisme, hein, comme il se présente lui-même, a finalement cédé au rappel de ses origines basques pour s'en rapprocher, donc en s'installant dans notre département. Il a, je vous le disais, déjà représenté le parti des travailleurs lors des européennes. Et question... certes direct, hein, au regard des scores réalisés par la tête de liste Lutte Ouvrière Nathalie Arthaud lors des trois derniers scrutins présidentiels. On rappelle entre 0,5 et 0,64% des voix. Mais qu'est-ce qui peut motiver de nos jours le vote Lutte Ouvrière? Réponse donc en ouverture de cet entretien.
La situation, elle est toujours aussi catastrophique pour les classes populaires, en tout cas que ça soit pour le monde du travail. Les chômeurs, de plus en plus, qui en plus ont subi là, une dernière loi là, sur l'assurance chômage qui fait qu'ils touchent de moins en moins d'allocations. Les retraites, bon, bah, je suis bien placé pour ne pas en parler, mais j'ai d'autres amis aussi qui sont à la retraite et qui sont vraiment dans la galère. Et bah, ce qui nous motive, c'est ça justement, c'est de dénoncer qu'il y a un pôle de la société, des gens qui s'en foutent plein les fouilles, les capitalistes, les groupes du CAC 40, enfin toutes ces grosses entreprises, elles s'en mettent plein les fouilles, elles continuent à s'en mettre plein les poches, tout ça sur le dos de la société et tout le dos de tout le monde. Regardez, dernièrement, là, on a le prix de l'essence qui augmente, qui n'arrête pas d'augmenter. Hein, les stocks étaient faits avec des cours qui n'étaient pas du tout au même cours que sont annoncés aujourd'hui. Et pourtant, ça n'empêche pas les Total et les autres de spéculer là-dessus. Et qui c'est qui paye la note? C'est les travailleurs, hein, les travailleurs, les chômeurs, les retraités. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ça nous motive toujours. Alors, effectivement, notre discours, il est assez radical, puisqu'on dit que c'est les travailleurs eux-mêmes qui pourront changer les choses. Et aujourd'hui, ce qui se propose aux élections, c'est voter pour moi, je vais changer les choses. Alors qu'ils ne dénoncent pas qui dirige ce système économique.
Lutte Ouvrière, présentée comme une gauche radicale, comme l'extrême gauche aussi. Vous, qu'est-ce que vous dites
S'il faut mettre une étiquette, on est communiste révolutionnaire. C'est-à-dire que nous, on aspire à une société où la production, elle irait à l'ensemble de la société, à l'ensemble des gens, et une répartition équitable.
Puisqu'on parle de la gauche, quel regard vous portez justement sur le parti communiste et cette alliance de gauche, donc de la NUP ou NUPES?
C'est une ressucée des années 80. Voilà, on remet 100 francs dans le jukebox. Non, vous inquiétez pas, le patron il va être gentil maintenant, parce que c'est nous qui sommes au gouvernement. Et il va lâcher des augmentations, il va embaucher des jeunes, il va embaucher largement dans les services publics et tout ça. Et c'est ça qu'on va nous faire croire. Mais qui commande? Qui commande? Non, c'est pas eux qui commandent, c'est les Bernard Arnault, c'est toutes ces grandes fortunes qui commandent et qui leur dictent effectivement ce qu'ils doivent faire.
Donc vous dites, quand Jean-Luc Mélenchon dit « je vais prendre l'argent où il est et le donner à ceux qui n'en ont pas », vous...
Des déclarations, enfin moi en tout cas, le programme commun, je l'ai connu, le programme commun de Mitterrand, et il y avait des mesures 100 fois plus sociales, en tout cas pour le monde du travail. Et quand ils ont été au gouvernement, avec la coalition de la gauche, mais de la gauche avec le PC et le PS, bon bah effectivement, une fois au pouvoir, la réalité s'impose à eux, c'est les patrons qui mènent la danse. Si la retraite à 65 ans, qui est prévue par Macron, lui il dit non, c'est 60 ans, je reste comme tel qu'on est, et voilà. Et on ne bougera pas. Mais elle est financée par quoi? Par qui? Ça va être la collectivité, l'État qui va financer ça. Il n'en parle pas de dire on va égratigner le CAC 40 ou en tout cas les bénéfices. Est-ce qu'il dit une seule fois dans son programme, je prends l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les caisses des entreprises? Et en plus, même s'il y avait vraiment la volonté de le faire, vous croyez qu'ils vont se laisser faire comme ça, les capitalistes? Ils vont dire, attendez, vous vous foutez de ma gueule ou quoi?
Donc, ils vont partir aussi.
Ils peuvent partir, peut-être, mais déjà ils le font. Il n'y a que les travailleurs qui pourraient faire faire quelque chose. Il y a pour eux, les travailleurs pourraient imposer en disant bon, écoutez, maintenant on en a ras-le-bol de financer les actionnaires. Notre travail, notre sueur et notre labeur, ça va directement dans les caisses des actionnaires. Bon, bah ça suffit. Et ça, c'est pas un sauveur suprême qui va le faire. Parce que la société, elle fonctionne. Et d'ailleurs, tout le monde l'a vu, c'était pendant le Covid. Tout le monde a dit oh, tiens, il y a des éboueurs, oh, il y a des caissières. Et oui, là, le monde du travail, ils se sont rendus compte que c'est nous qui faisions tout tourner. Donc, il n'y a pas d'autre solution que si c'est la population qui s'implique.
La seule opposition, vous avez dit à Macron pendant ces 5 ans, ça n'a pas été l'Assemblée nationale, c'est la rue.
Ouais.
Référence aux gilets jaunes.
Ouais, il y a eu les gilets jaunes. C'était un mouvement qui était un mouvement de contestation populaire au départ, parce que c'était quand même sur l'augmentation de l'essence. Et c'était les gens, des petits gens. Hein. Moi, j'étais souvent dans les ronds-points, voir des gens qui étaient quoi, infirmières, qui étaient caissières, aides-soignantes, enfin bon, des travailleurs, quoi. Voilà, c'était ça. Et eux, bon, bah, ils se sont révoltés. Même aujourd'hui, ils ont du mal. Il y a des gens qui ont du mal à se nourrir. Donc ça, c'est quand même une catastrophe dans un monde ou dans un pays où on se dit quatrième puissance mondiale, hein, économique mondiale. On marche sur la tête, quoi. Et donc, forcément, qu'il y a des explosions. Alors, elle a été limitée. Au plus fort du mouvement, il y avait peut-être 300 000 gilets jaunes sur les ronds-points.
Enfin, ils étaient à quelques kilomètres du palais président. Fait,
ouais,
du palais.
Ouais, mais c'est pas l'économie. Quand on est c'est au cœur du réacteur qu'on peut attaquer. Quand c'est dans les entreprises. La pression, quand elle s'est faite, par exemple, sur le plan Juppé, ça s'est fait au cœur du réacteur. Les grèves, elles se sont faites dans la production, dans les usines qui s'arrêtaient. Et c'est là qu'effectivement, ils font marche arrière. C'est pas au moment. Bon, l'erreur des gilets jaunes, on leur disait d'ailleurs, quand on en discutait, c'était d'aller s'adresser aux travailleurs qui étaient dans les usines ou dans les bureaux, dans les centres commerciaux. Voilà, là, on aurait pu effectivement peut-être faire peur au gouvernement.
Il a fallu plus de salive, plus d'échanges que de montrer les muscles.
Oui, parce que même les syndicats ont été hostiles. À un moment, ils n'ont même pas été solidaires des gilets jaunes. Donc, les syndicats qui représentent soi-disant la défense du monde du travail, il y avait une partie qui était en lutte, et bien là, ils les ont ignorés. Bon, bah effectivement, ça n'entraîne pas et ça donne pas une envie aux gilets jaunes de venir devant les entreprises pour dire « Attendez, les gars, on est tous pareils, on a tous nos problèmes pour venir au boulot, faut mettre de l'essence hein, dans sa voiture. » Et c'est pas pour faire des bénéfices des entreprises, c'est nous qui payons hein, pour aller suer le burn-out du matin au soir. Voilà, donc...
Une crise chasse l'autre, de la crise sanitaire, on a la crise ukrainienne. Cette guerre, elle va être, je vous cite, un prétexte pour Macron. De nouvelles attaques sur les travailleurs. On parle quand même d'une guerre avec des enjeux, de l'embargo sur les exportations, plus de matières premières, la crise du blé, le mot prétexte.
Le mot, moi, à mon avis, il reflète effectivement comment le monde de la finance, il interprète, enfin en tout cas, il fait rejaillir les crises, toutes les crises, alors qu'elles soient peut-être guerrières. Les crises économiques, elles se transforment souvent en crise de guerre. Faut pas croire que parce que c'est une guerre économique, les gens ils se regardent gentiment, les États se regardent gentiment. Les capitalistes regardent gentiment. Il y a un moment ou un autre, ils ont lorgné sur les productions hein, et ils ont envie de se les accaparer. Que ce soit Poutine ou que ce soit Biden, hein, de toute façon. Et même Macron, hein, parce qu'il ne faut pas croire qu'au Mali, hein, l'armée française est liée pour les beaux yeux hein, des Maliens et pour protéger des djihadistes. Hein. On l'a bien vu, hein, c'est surtout pour protéger l'uranium qui va chez Areva. Donc vous voyez, les prétextes, oui, effectivement, ce sont des prétextes. Et aujourd'hui, ici, on nous dit, ah bah oui, mais il y a une inflation. Il y a une inflation parce que la guerre, elle fait que l'Ukraine produit tout maintenant. On a l'impression que l'Ukraine produisait, c'était le grenier du monde, peut-être au niveau du blé.
Les matières premières en Russie, c'est surtout par rapport à la Russie qui est bloquée à ses exportations.
Ouais,
on s'est rendu compte qu'il y avait une dépendance.
Ouais, mais il y a une dépendance, forcément quand on est en concurrence avec tous les autres pays. Quand les États ou même les capitalistes sont en concurrence les uns les autres, bah forcément on n'a pas toutes les matières premières dans un pays.
Donc c'est l'économie de marché qui est responsable pour le coup.
Bien sûr. Bien sûr, mais l'économie de marché, c'est pas le monde des bisounours. Hein. Vous voyez, c'est un discours bien plus large. Il y en a qui veulent cantonner ça aux Landais, aux Nordistes. Mais on a tous les mêmes problèmes. Et on est conditionné à toute cette économie mondiale. Et si on n'a pas conscience de ça, et si on dénonce pas ça, bah, on se dit, voilà, c'est moi qui vais changer les choses, c'est moi qui suis le bonhomme là-dedans, et vous allez voir, ça va pas rigoler. Là.
Donc moralité, il faut pas être forcément travailleur ou ouvrier pour lutter ouvrière.
Bah non, bien sûr que non, bien sûr. que non. Quand vous êtes artisan, ça dépend. Il y a des petits patrons. Hein. Moi, j'attaque pas les petits patrons et j'ai pas de tact les gros. Les gros, c'est eux qui. Le petit patron, des fois, il a un employé ou deux. Il travaille autant que les ouvriers en usine. C'est pas le problème. Mais il est souvent assujetti d'ailleurs à des contrats de grosses entreprises. Les commerçants, regardez un commerçant. Si une usine est ferme dans une région, le commerçant, il ferme la porte. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus personne. L'économie en elle-même, elle fonctionne plus. On est des consommateurs, enfin, je veux dire, les consommateurs, oui, on est bien obligé de se nourrir, de se loger et puis de se vêtir. Bon, donc voilà. Donc forcément, si on n'a plus de revenus, tout s'effondre. Donc nous, on parle de l'économie dans son ensemble. Et l'économie dans son ensemble, elle peut toucher tout le monde. Je veux dire, elle touche tout le monde. Le seul moment où la crise, elle touche personne, c'est quand elle ne touche pas le CAC 40. Vous avez vu que là, même ces derniers temps, même avec la crise, ils ont augmenté leurs profits. Même pendant le Covid, ils ont augmenté leurs profits. Même pendant la guerre, ils augmentent leurs profits. Alors qui paye les pots cassés ?
Jean-Claude Bon, avec pour suppléante Françoise Calois, candidat de lutte ouvrière dans la première circonscription des Landes pour le premier tour du scrutin législatif ce dimanche.
MDM, plus proche de chez vous.